La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a un peu plus de 10 ans, à l'automne 2008, à des milliers de kilomètres des ronds-points métropolitains, un mouvement social d'ampleur voyait le jour avec, pour revendication principale, le pouvoir d'achat. Là, s'arrête peut-être à cette dénonciation de la vie chère, la ressemblance avec le mouvement plus récent des Gilets jaunes. Car aux Antilles, puisque c'est de là-bas qu'il s'agit, en Guadeloupe puis en Martinique, ce sont les syndicats qui sont à l'origine de cet appel du lianage comme profitation. Je ne sais pas comment on prononce, on verra ça tout de suite. 10 ans après, une enquête socio-historique nous permet de comprendre ces différences et ce qui s'est exactement passé lors de ce conflit social singulier. Cette enquête est signée Pierre Audin, elle paraît aux éditions La Découverte, sous ce nom, Profitation, il s'agit d'analyser ces luttes syndicales dans une situation particulière qui est celle de l'anticolonialisme sur ces deux territoires. On en parle dans la deuxième partie, on sera rejoint par un réalisateur à qui l'on doit des documentaires qui permettent aussi d'éclairer cette situation, ce mouvement. C'est Gilles Elydie Kozak qui nous rejoint en deuxième partie d'émission. Bonjour Pierre Audin.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à l'université de Poitiers. Alors peut-être on peut commencer par cette question de prononciation, comme ça elle sera réglée, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais
c'est profitation.
On prononce le R comme en français, ça s'écrit avec un W, ça s'écrit en créole en fait.
Oui, ça s'écrit en créole. C'est un slogan créole qui a surgi dans les mobilisations au moment de la grève générale de 2009.
Alors j'ai commencé en faisant ce parallèle qui peut paraître bizarre avec les gilets jaunes, mais qui peut paraître bizarre, et en même temps, si on fait le parallèle, c'est parce que il y a cette question du pouvoir d'achat, de la vie chère, qui est vraiment centrale à ce mouvement, et on sait que c'est aussi l'une des revendications, si ce n'est la revendication principale qu'on a entendue à la fois sur les ronds-points et lors des manifestations du samedi en France depuis le mois de novembre dernier. Ça vous semble une comparaison heuristique, pertinente, vous qui avez travaillé longuement sur ce mouvement de 2008-2009?
Tout dépend un peu des catégories qu'on mobilise pour comparer les deux mobilisations. Je dirais ce qui se donne à voir et ce qui interpelle, c'est cette apparente similarité effectivement sur les revendications, et puis ce débordement un peu massif et un peu multiforme où on a tout un tas de segments différents de la population qui descendent dans la rue pour revendiquer. Donc ce moment un petit peu particulier où il y a vraiment une subjectivité contestataire qui se forme et qui se répand autour de la question de se réapproprier les conditions matérielles d'existence. Puis il y a aussi un deuxième point qui fait quand même un peu le lien entre les deux, c'est qu'il y a quand même un moment où les autorités politiques et économiques, celles et ceux qui détiennent le pouvoir en temps normal, sont particulièrement désarçonnés par le cours de la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, sur eux, une forme de contrainte, sont obligés de fournir un effort de transparence qui se fait un peu à marche forcée, puis ils sont contraints par le cours de la mobilisation. Après, la grande différence, à mon sens, entre les mobilisations du LKP en Guadeloupe ou du collectif du 5 février en Martinique, c'est qu'il y avait eu tout un travail en amont, tout un travail préparatoire, non seulement sur les revendications, mais aussi sur les adversaires du mouvement, à qui on allait demander ces augmentations de salaires et de minima sociaux, qui étaient visés par les revendications démocratiques, environnementales, sociales. Donc, toutes les questions qui avaient trait, par exemple, à l'État et au patronat, c'est des choses qui avaient été l'objet de discussions particulièrement âpres entre les organisations syndicales, mais qui avaient aussi préparé le mouvement, ses revendications et sa dynamique. Là où, chez les Gilets jaunes, c'était plus, on va dire, un peu plus confus et plus hétérogène.
On reviendra sur ce parallèle dans la seconde partie de l'émission avec Gilles Elie Dikozak. Mais là, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé 2008-2009, à la fois en Guadeloupe et en Martinique, votre enquête démarre très en amont. Et c'est tout le mérite de ce travail, de pouvoir replacer au fond ce mouvement singulier qui surprend beaucoup de monde, mais qui sort pas de nulle part en même temps, qui est lié à des organisations, qui est lié à un cadre dans cette histoire récente du syndicalisme guadeloupéen et martiniquais. Et puis on le verra aussi, c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre des choses de manière plus générale peut-être sur le syndicalisme en comparaison avec le syndicalisme métropolitain. Et il y a des spécificités très très fortes au syndicalisme guadeloupéen et martiniquais. Alors ce contexte, peut-être avant qu'on y vienne, sur ce contexte, cette histoire récente, ces années 60, 70, sur lesquelles vous travaillez, peut-être convient-il d'abord de noter qu'il s'agit d'une situation postcoloniale, même si ce mot est lui-même l'enjeu de définition, et de définition non seulement par les acteurs politiques, mais à l'intérieur du champ scientifique dans lequel vous vous insérez.
Oui, complètement. Moi, ce qui a été la motivation de ce travail, pour être rapporté à son économie générale, ça a été de prendre au sérieux le fait qu'il y avait une critique anticapitaliste, à la fois des inégalités et des dysfonctionnements dans la société, et que cette critique anticapitaliste, quand bien même elle n'était pas, on va dire, majoritaire dans le cours de la vie publique ou les expressions politiques, elle trouvait une certaine résonance et elle avait une certaine audience auprès de franges assez significatif de la population, y compris quand il y a des parts de la population, et elles sont clairement majoritaires en Guadeloupe et en Martinique, qui sont opposées, par exemple, à l'indépendance des territoires. Ils sont, en revanche, il y a tout un tas de Guadeloupéennes, de Guadeloupéens, de Martiniquaises et de Martiniquais, qui sont sensibles à des arguments anticolonialistes dès qu'il s'agit de critiquer l'ordre existant, les hiérarchies au travail, les inégalités, les discriminations, et puis un certain nombre de déséquilibres qu'on peut observer dans la société. Voilà, pourquoi est-ce que les services publics dysfonctionnent? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de prise en charge de questions sanitaires et sociales comme le chlordécone? Toutes ces choses-là rentrent, je dirais, en congruence avec cette critique anticolonialiste qui est l'héritage direct à la fois de la période de départementalisation et puis des luttes anticolonialistes des années 1960-1970.
Alors d'ailleurs, les gens qui portent ce mouvement, vous dites, ils sont nés au moment de cette... Enfin, ils sont contemporains de cette départementalisation. C'est des gens qui arrivent après, au fond, la grande vague de décolonisation qui a lieu à travers le monde. C'est la génération d'après, en quelque sorte.
C'est la génération d'après. Pour restituer un petit peu le raisonnement que porte l'ouvrage, ça a été un peu un questionnement à tiroir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces coalitions larges, ces fronts sociaux et politiques d'ampleur qui secouent la Guadeloupe et la Martinique au moment de la grève générale? Assez rapidement, je me suis rendu compte que les principaux...
Vous êtes parti de là, vous êtes parti de l'événement et vous êtes remonté historiquement. C'était pas un travail historique que vous faisiez et puis hop, l'événement survient, etc.
Non, au départ, moi, c'était vraiment un travail de sociologie des mouvements sociaux qui était de délimiter qui sont les acteurs, pourquoi telles revendications sont prioritaires sur telle autre, essayer de restituer un peu le déroulement de la mobilisation et de comprendre comment ça avait émergé, pourquoi ça avait pris une ampleur pareille. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement en travaillant sur ces coalitions que les principaux animateurs, les figures publiques, alors on peut penser à Élie de Motta dans le cadre de la Guadeloupe, les principaux animateurs de ces coalitions, ça avait été des syndicalistes. Et c'était des syndicalistes qui affichaient des prétentions politiques extrêmement explicites, ce qui, on y reviendra, mais une différence assez marquée avec ce qu'on peut observer en termes de syndicalisme dans l'Hexagone. À partir de ce questionnement-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ces syndicats et cette politisation syndicale aux Antilles, elle n'était pas là par hasard, et qu'elle était notamment le fruit d'un travail de politisation bien bien antérieur, qui vient à la fois des luttes anticolonialistes des années 60-70, qui ont été des luttes essentiellement politiques, où il y a toute une partie de la jeunesse étudiante, intellectuelle, mais aussi ouvrière, qui prend parti et qui s'investit dans des luttes anticolonialistes pour l'indépendance, pour la révolution, pour le socialisme, et que au fur et à mesure, on va dire, de leur trajectoire biographique, un certain nombre de ces militants étaient passés d'un militantisme davantage politique à un militantisme davantage syndical. Alors, selon des configurations assez différentes en Guadeloupe et en Martinique, parce que ce sont des histoires politiques différentes, mais en tout cas qu'il y avait vraiment ce phénomène générationnel qui expliquait qu'un certain nombre de militants des années 60-70 aient occupé des postes clés à l'intérieur des syndicats et cherché à maintenir une politique anticolonialiste et anticapitaliste avec un horizon révolutionnaire dans leur travail d'organisation syndicale.
Alors ça, c'est pour, je dirais, l'aspect politique de leur parcours. biographique, de leur socialisation, mais il y a aussi un aspect, si on peut séparer les deux, c'est toujours délicat, plus intellectuel, et vous notez qu'il y a beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'historiens dans ces organisations.
Ça fait partie, je dirais, des choses qui sont révélatrices à la fois des processus sociaux qui caractérisent la période qui court de la départementalisation jusqu'aux années 60-70, c'est-à-dire qu'on a une relative massification du système scolaire. Un nombre plus conséquent de jeunes Antillais accèdent à l'enseignement secondaire. Mais le paradoxe de cette situation-là, c'est qu'ils n'y accèdent pas uniquement, je dirais, de façon docile en fonction de ce que voudrait mettre en place le système scolaire, qui est très prompt à les mettre en avant comme une jeunesse qui a réussi intellectuellement et qui est sur la voie de l'assimilation. En fait, parmi ces jeunes qui vont accéder aux études supérieures, une très large partie d'entre elles va rentrer en dissidence, en sécession, va discuter, va connaître une appétence pour les idées anticolonialistes, le tiers-mondisme, le marxisme, va s'intéresser à la révolution cubaine, au lieu de libération nationale algérienne, au parti des Black Panthers pour l'autodéfense états-unien. Et donc, il y a tout un horizon contestataire qui va venir se structurer dans cette jeunesse, et y compris, c'est ça qui m'a moi aussi surpris et intéressé, pas seulement dans les dynamiques locales d'engagement, mais aussi en fonction des circulations entre la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi vers l'Hexagone.
Là, c'est quelles années environ?
Là, on est clairement dans la fin des années 1960. Alors, il y a les événements de mai 67 en Guadeloupe qui témoignent effectivement de ce soulèvement de la jeunesse indépendantiste radicalisée qui va, je dirais, mettre à profit une grève des ouvriers du bâtiment pour tenter de lancer une insurrection indépendantiste en Guadeloupe. Mais plus généralement, parmi cette génération qui court, on va dire, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, il va y avoir énormément de militantes et de militants qui vont connaître aussi une mobilité vers l'Hexagone, qui vont rencontrer les organisations révolutionnaires.
Oui, parce que ça fait écho à ce qui se passe en même temps dans l'Hexagone.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de logiques qui vont dont procède le mai français et qu'on connaît, c'est-à-dire une remise en cause de à la fois de la subordination et des hiérarchies au travail, des cadences infernales, et puis aussi une forme d'étouffement culturel et social, et puis une crise quand même encore de décolonisation qui est pas très bien digérée, parce que la façon dont le général de Gaulle gouverne est toujours présenté comme étant la solution pacificatrice à la sortie de la décolonisation. Donc tous ces questionnements-là, toutes ces contradictions-là, on les retrouve, et je dirais même on les retrouve accentuées dans les territoires que sont la Guadeloupe et la Martinique. Et ça va favoriser une sorte de caisse de résonance qui fait que quand ces jeunes politisés vont connaître des mobilités, ils vont être d'autant plus sensibles à tout le développement des organisations d'extrême gauche qu'on va observer après mai 68 en France. Et ils vont avoir très tôt le désir de retourner aux Antilles pour mener une politique révolutionnaire.
Ça, c'est un trait fréquent de ces parcours biographiques, le fait qu'ils aient fait le détour par la métropole.
C'est un trait relativement fréquent. Et ça explique un changement politique qui est important, c'est que là où l'anticolonialisme et l'indépendantisme étaient, on va dire, globalement dominés par une forme de nationalisme noir, qui identifiait les mouvements de décolonisation au tiers-mondisme. Après mai 68, on va avoir une diversification de cette perception de la lutte anticoloniale, avec tout un tas d'appropriations qui sont originales, qui sont concurrentes, qui sont pas simplement une traduction de ce qu'on peut connaître dans l'Hexagone, même s'il y a des organisations d'extrême-gauche qui réclament une solidarité politique entre groupes trotskistes, entre groupes maoïstes, mais également un véritable effort pour arrimer une critique, je dirais, anticapitaliste, marxiste, à la réalité locale. C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui vont connaître cette évolution sociale, mais qui vont avoir aussi la volonté de se lier aux masses ouvrières et paysannes, notamment dans le secteur cagnier, et qui vont aller très tôt à la rencontre, qui s'appelle la rencontre avec le peuple, pour se lier aux luttes agraires, aux luttes des ouvriers et des paysans en Guadeloupe et en Martinique.
Et ça passe plutôt par les syndicats, directement, où il y a une phase un peu intermédiaire, où il y a des engagements politiques avant une conversion vers les organisations syndicales.
Alors, les choses se passent différemment entre la Guadeloupe et la Martinique. En Guadeloupe, notamment, en fait, la phase de transition vers le syndicalisme, elle est très liée à la répression, à la fois physique et judiciaire, du militantisme indépendantiste après les événements de mai 67, après les massacres dans l'agglomération pontoise, qui vont quand même contraindre ces jeunes gens à réévaluer la situation politique et à se dire peut-être qu'une solution de lutte armée clandestine, elle n'est pas à notre portée. Et qu'une façon de s'adresser à la population, ça va être de former des organisations de travailleurs. C'est ce qui fait l'apparition de l'Union des travailleurs agricoles ou de l'Union des paysans pauvres de la Guadeloupe au début des années 70, qui sont des organisations qui préfigurent de ce que va être par la suite l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui, elle, naît en 1973. Donc en Guadeloupe, le basculement se fait un peu comme ça. En Martinique, on va dire jusqu'au moment de la grève du Chalvet, qui est là encore une grève qui se passe chez les ouvriers et les paysans guadeloupéens, on a tout une myriade d'organisations, vous avez le groupe Révolution Socialiste, le groupe Combat Ouvrier, le groupe 70, les groupes d'action prolétariens, qui sont tout un tas de groupes d'extrême gauche, et qui vont essayer de mener auprès de ces secteurs une agitation anticolonialiste, en faisant des pratiques d'enquête, en publicisant les conditions très dures dans lesquelles les ouvriers travaillent, et puis en faisant de l'agitation, voilà, de l'agitation politique, contre les béquets, en essayant de prendre à défaut le Parti communiste ou les organisations autonomistes, en leur disant, voilà, vous nous avez promis la départementalisation, les choses ne sont pas réglées, la misère est toujours là, l'exploitation est toujours là, et nous, on a décidé de se lier aux masses. Alors là encore, il y a pas mal de contradictions, hein, parce que ce sont des jeunes gens qui arrivent avec une certaine aura, et c'est ce qui explique à mon sens aussi qu'ils aient été plus difficiles à discréditer que ce qu'on a pu voir par exemple dans les phénomènes d'établissement dans l'Hexagone avec les Mao qui allaient en usine. Là, il y a vraiment une rencontre qui fait mouche. Et je veux dire, ces jeunes prennent une part extrêmement active dans les luttes du Chalvet. Et ils sont décisifs au moment du commencement de la grève.
Parce qu'il y a une dimension de retour aussi, pour ceux notamment qui étaient passés par la métropole, il y a une dimension de retour, ce qui évidemment n'avait pas de sens pour un jeune citadin qui décidait d'aller s'installer, s'établir en usine en province en France, par exemple.
Alors, ça, on pourrait peut-être le nuancer quand on regarde la trajectoire sociale, parce qu'il y a eu des enquêtes aussi sur les établis Mao, qui montrent que, bon, un certain nombre d'entre eux, c'est des gens qui ont connu une ascension sociale, mais qui venaient aussi de la classe ouvrière. Et on retrouve ça aussi. Mais là où c'est particulier, c'est que ces jeunes gens, ils ont quand même vécu, quand bien même ils ont réussi un parcours scolaire, ils sont complètement conscients du monde qui les entoure. Et notamment parce que à la question sociale qui est extrêmement prégnante, se superpose une question raciale. C'est-à-dire, pourquoi à un moment donné, alors qu'on est mis en avant comme étant les symboles de la méritocratie, de l'intégration, de l'assimilation, on n'accède toujours pas ou très difficilement au poste d'encadrement? Et pourquoi, à côté, on continue à avoir une exploitation avec des conditions de travail extrêmement rudes, avec du travail à la pièce, avec des gens qui souffrent de la faim? Enfin, quand on parle de la Martinique dans les années 1970, on parle encore de gens qui, dans tout un tas de secteurs du prolétariat, travaillent parce qu'ils ont faim et qu'on jamais accédé à une quelconque forme de confort, ou alors très très relative. Et donc, ils sont complètement conscients de ces inégalités et ils ont envie de lutter et de s'engager pour transformer la société de façon révolutionnaire.
Alors ça dure l'après-mai, en quelque sorte, ces années 70. Il va y avoir une sorte de reflux après, comme celui auquel on a pu assister en France métropolitaine. J'imagine aussi peut-être des parcours de professionnalisation politique pour certains, l'équivalent de ce qui s'est produit autour du Parti Socialiste en France.
Ça a effectivement, dans une certaine mesure, ça a eu lieu. Notamment, alors là, pour le coup, en Martinique, où une partie de cette jeunesse anticolonialiste radicale, au moment de 1980 et de l'accession à la gauche au pouvoir, il va se nouer une sorte d'arrangement, d'alliance politique entre les forces autonomistes qui, jusque-là, déclaraient avoir un projet politique anticolonialiste, et de l'autre côté, on va dire le gouvernement Mitterrand, qui, par un certain nombre de mesures, va obtenir, je sais plus comment le dire, mais obtenir le gracier un certain nombre de personnes qui avaient été mises en accusation dans des luttes anticoloniales. Donc il y a une espèce de compromis qui se passe. Et dans ce contexte de compromis, un certain nombre de jeunes militants anticolonialistes vont progressivement rejoindre les rangs d'une gauche autonomiste plus institutionnelle. Donc effectivement, on pourrait faire des parallèles avec ce qu'on observe chez les militants d'extrême gauche qui rejoignent le Parti Socialiste dans les années 80. Mais pour une part significative d'entre eux, et aussi conformément à ce qu'on observe en France où les 68ards n'ont pas tous retourné leur veste, entre guillemets, il y a toute une partie d'entre eux qui va continuer à militer et à chercher à organiser politiquement et à continuer à faire exister la lutte. Alors ils vont le faire selon des modalités différentes et bien souvent en fonction de leur vie professionnelle et puis de leur vie, pour dire matrimoniale ou conjugale, ils vont petit à petit se stabiliser et ils vont rentrer dans les syndicats où ils vont occuper des postes de direction.
Alors, ces syndicats et ce paysage syndical, à quoi ressemble-t-il? Je pense que c'est important de s'y arrêter, parce que vous le décrivez dans toutes ses subtilités, ses nuances, et il est important de le comprendre, parce qu'il est quand même très 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 différent du paysage syndical auquel on est habitué en métropole.
Oui, alors je l'évoquais tout à l'heure, mais En Guadeloupe notamment, on a à l'intérieur du champ syndical la domination d'une organisation qui est indépendantiste, donc l'UGTG, dont est issu Elie de Mota, qui a été le porte-parole du LKP au moment de la grève générale, et qui est une organisation qui revendique explicitement un syndicalisme indépendantiste, et qui revendique ce projet politique, qui forme ses adhérents, qui les recrute en fonction, et qui entretient autour d'elle tout un travail non seulement de représentation et de défense des salariés, mais aussi tout un travail parallèle d'éducation populaire pour la revalorisation de la culture créole, pour la connaissance de l'histoire des résistances anti-esclavagistes et du mouvement ouvrier. Donc une organisation syndicale qui ne se limite absolument pas à la gestion des relations professionnelles ou même à des mobilisations strictement salariales.
Donc on est loin d'une sorte de conséquence un peu stricte de la charte d'Amiens en France métropolitaine, avec des syndicats qui sont toujours hésitants à se mêler de politique.
Non, effectivement, le syndicalisme aux Antilles est marqué. C'est noté par des observateurs du dialogue social aux Antilles, c'est aussi noté par tout un tas de travaux, mais il y a un caractère explicitement politique du syndicalisme aux Antilles. Alors, ça se voit de plusieurs façons, dans le multipositionnement en fait des responsables syndicaux. Moi, j'ai vu par exemple des secrétaires généraux de la CGT en Guadeloupe ou en Martinique n'ont aucun problème à afficher explicitement qu'ils sont membres de Combat Ouvrier, qui est l'équivalent antillais de Lutte Ouvrière. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont questionnées. À partir du moment où ils ont repris en main les syndicats à la faveur d'un travail extrêmement volontariste et extrêmement patient de structuration, voilà, ils se posent comme étant les animateurs naturels, et je dirais même les héritiers des luttes communistes révolutionnaires, et ils entendent à travers le syndicalisme recruter, ils entendent former des gens à cette lutte politique à travers le syndicalisme.
Alors, les situations sont en plus un peu différentes entre la Guadeloupe et la Martinique. On est dans ces années 80, quid de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a des échos? Parce qu'on est frappé de voir qu'il y a des différences entre Guadeloupe et Martinique. Il n'y a pas forcément de coordination aussi étroite qu'on pourrait l'imaginer. Mais alors, j'imagine que c'est encore plus éloigné s'agissant de territoires d'outre-mer très loin, mais où il y a des revendications indépendantistes fortes dans ces années 80.
Alors, chez les indépendants, pendant les années 80, on observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, notamment en 1983 avec ce qui se passe pendant le massacre d'Ouvéa, où il y a quand même une réminiscence, enfin quelque chose qui rentre en résonance très forte avec la façon dont les indépendantistes ont été réprimés, en disant tiens, voilà, l'État français réprime encore. Et l'UGTG et les syndicats indépendantistes entretiennent des liens de communication, de fraternité, d'entraide avec l'USTKE et avec les organisations syndicales en Kanaky. La deuxième chose, c'est que pendant les années 80, il faut aussi se figurer que ce sont pas des années qui sont calmes. Il y a effectivement, on pourrait dire, un reflux global de la politique révolutionnaire, mais il y a quand même et subsiste des formes d'organisation clandestine extrêmement radicales. On peut penser à l'Alliance révolutionnaire de la Caraïbe, qui opère à la fois en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et qui perpétue un certain nombre d'attentats. Il y en a plusieurs centaines sur la décennie des années 1980, avec très régulièrement des attentats à la bombe, des incendies. Donc c'est une période qui est loin d'être un long fleuve tranquille. En revanche, c'est aussi une période où il va y avoir une certaine forme d'isolement de ces modalités plus radicales, et où au final le mouvement indépendantiste, notamment en Guadeloupe, se sépare un peu entre une branche qui souhaite intégrer la politique institutionnelle et puis cette branche proche du MPGI, de l'Ukrainette, de l'ARC, qui elle choisit un chemin délibérément plus radical mais aussi plus minoritaire. Ce fait qu'à la fin des années 80, en fait, l'UGTG déclare à son congrès de 1993 être la seule organisation à avoir, j'ai entre guillemets, tenu la baraque de l'indépendantisme et réussi à porter un projet politique indépendantiste de masse. Puisque il n'y a pas eu de succès électoraux des indépendantistes qui se sont présentés aux élections, il n'y a pas de perspective révolutionnaire qui se dégage au niveau des actions de lutte armée et des actions clandestines. Donc l'UGTG va un peu... Voilà, dire
reste le terrain syndical.
Voilà, c'est le terrain syndical, c'est là qu'on peut s'adresser aux Guadeloupéens sur une base indépendantiste.
Alors ça, c'est l'arrière-plan et en profondeur politique de ces années. Si on en vient maintenant au mouvement dont on parlait, qui commence à la fin de l'année 2008 et se poursuit quelques mois, d'abord en Guadeloupe, puis en Martinique. Comment le décrire? Vous le disiez tout à l'heure, il est à l'initiative des syndicats, mais il faut tout de suite préciser qu'ils sont eux-mêmes un peu dépassés, je sais pas, en tout cas surpris par l'ampleur que prend ce mouvement, par le fait de voir des gens descendre dans la rue massivement.
Oui. Il y a différents temps dans cette mobilisation. Il y a d'abord toute la phase préparatoire qui en fait commence en réalité en Guyane, puisqu'en Guyane commence une contestation, mais qui prend une ampleur plus faible, sur la question du prix de l'essence. Assez rapidement, à la suite des élections professionnelles, à la rentrée 2008, les organisations syndicales guadeloupéennes qui viennent d'avoir une photographie un peu instantanée du rapport de force entre elles, c'est-à-dire qui a recueilli le plus de suffrages aux élections, vont commencer à se rencontrer en disant il y a un mécontentement qu'on sent poindre sur la question du prix de l'essence et peut-être de la vie chère, et il faudrait qu'on se rencontre pour mettre en place une plateforme de revendication qui permette de déployer dans un premier temps une intersyndicale et pourquoi pas un mouvement. Donc ces premières réunions, elles ont lieu au siège de l'UGTG en Guadeloupe, rue Paul Lacavé, et puis elles débouchent assez rapidement sur une forme d'accord, notamment entre l'UGTG et la CGT, et malgré leurs divergences politiques, ils commencent à se mettre d'accord sur la question du prix de l'essence, la question de la vie chère, et sur la revendication phare qui va être celle des 200 euros. En disant, voilà, on va demander au patronat de prendre en charge une hausse de salaire de 200 euros avec un gel sur les prix. Mais ce qu'il faut aussi se figurer, c'est que les organisations sont un peu en concurrence, elles se tiennent un peu en suspicion, elles savent pas trop comment ça va se passer. Et donc, elles font venir et elles regroupent autour d'elles tout un tas d'organisations associatives, politiques, qui sont conviées autour de la table et à participer à la plateforme de revendication. Et petit à petit, en Guadeloupe, va se mettre en place des formes de tournées avec des meetings où on avertit la population et on lui présente les premières revendications du LKP. Et ces meetings connaissent une certaine affluence, en tout cas qui dépasse celle qui est observée habituelle quand il y a des mobilisations intersyndicales. En Martinique, les choses sont un peu différentes. Il y a aussi la tentative de lancer une mobilisation contre la vie chère, mais à l'inverse de la Guadeloupe, les mobilisations, les meetings sont très loin de faire le plein. C'est pour ça que quand la mobilisation commence en Guadeloupe, on est déjà sur le seuil d'une mobilisation importante. Les premières mobilisations qu'il y a en décembre laissent percevoir qu'il pourrait y avoir une grosse mobilisation. Même si, bon, à partir du 21 janvier et du déclenchement officiel de la grève générale, on va tout de suite passer un cap et tout de suite avoir une mobilisation encore plus massive. En Martinique, il faut attendre le 5 février pour que vraiment, à l'appel des organisations syndicales, la population descende dans la rue assez massivement. On a des manifestations de plus de 20 000 personnes à Fort-de-France. Et le collectif décide de se structurer en s'appelant, voilà, on est le collectif du 5 février, puisque c'est le 5 février que les Martiniquais sont descendus dans la rue.
On revient sur ce mouvement social très très singulier, la manière dont on peut le comprendre et ce qu'il nous dit aussi par comparaison avec d'autres mouvements et d'autres situations syndicales. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission pour laquelle le réalisateur Gilles Elidie Kozak nous rejoint. Mais avant ça, on écoute un extrait du nouvel album de Bruce Springsteen, « There Goes My Miracle ».
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my
Profitation, lutte syndicale, anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui, livre de Pierre Audin, et on en parle aussi
pour cette deuxième partie en compagnie d'un réalisateur, Gilles-Élie Di Cosac, à qui l'on doit de nombreux films, et qui, pour certains d'entre eux, aborde ces questions des mouvements sociaux aux Antilles. Je pense le dernier, je crois que c'est le dernier en date, nous irons voir Pelé sans payer. Il nous expliquera ce titre qui peut sembler mystérieux. Pelé, c'est bien le grand footballeur. Et puis, plus directement sur ce mouvement dont nous parlions à l'instant, la liste des courses. Bonjour Gilles-Élie Di Cosac.
Bonjour Sylvain.
Alors, la liste des courses, finalement, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire et résume à elle seule pratiquement à la fois l'objectif numéro un de ce mouvement, c'est-à-dire la vie chère, le pouvoir d'achat, et en même temps, elle dit aussi ce que vient de décrire le sociologue Pierre Audin, c'est-à-dire la façon dont les revendications se sont ajoutées les unes aux autres, et on finit par constituer une liste du fait du mouvement et de son caractère un peu fédératif, Gilles-Élie Di Cosac.
Oui, alors avant tout, je fais ce petit préambule, c'est-à-dire que voilà, je fais des films, en fait, effectivement, en fait, de temps à autre, en fait, dans les histoires que je raconte, ben, on croise effectivement l'histoire syndicale, en fait, des Antilles, mais c'est pas le sujet, et ça me fait pas de moi un spécialiste comme les Pierres, en tout cas.
Non, mais
en fait,
vous portez un regard de cinéaste.
Effectivement, c'est un regard, et effectivement, voilà, la liste des courses, en fait, ce film est né après le mouvement, en réaction en fait à l'établissement en fait d'une des revendications qui a eu lieu, enfin qui avait en Martinique et qui avait aussi en fait en Guadeloupe, c'est en fait une liste de produits dits de première nécessité. Et quand j'ai vu en fait les premières moutures de cette liste en fait sortir un petit peu dans les médias, sur les réseaux sociaux, j'étais assez étonné parce que voilà, en gros, effectivement, ma première réaction, c'était, c'est une liste de courses. C'est la liste de courses, en fait, d'une famille. Mais en fait, que me dit cette liste, en fait, et qui est la famille qu'il y a derrière? Et je n'avais pas l'impression de reconnaître la famille que je croyais connaître. C'est-à-dire que, voilà, pour donner des éléments, en fait, les plus caricaturaux, en fait, sur ces premières listes, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver du fromage, et puis fromage râpé, pommes de terre, frites surgelées. Je me dis, mais... Enfin, de quoi parle-t-on? Et donc voilà, en fait, oui, j'ai décidé de faire un film là-dessus, en fait, en prenant comme point de départ, en fait, cette fameuse liste de produits dits de première nécessité, qui posait plusieurs questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des produits de première nécessité, qu'est-ce que c'est que des produits de première nécessité? Qu'est-ce que c'est, en fait, pour, justement, en fait, les Antilles, les Antillais, en fait, des produits de première nécessité? Et puis, pour raconter cette histoire, il me fallait me raconter en fait l'histoire en fait du mouvement. Donc je me suis concentré sur la Martinique après avoir un moment caressé l'espoir de pouvoir faire les deux îles, mais je me suis rapidement rendu compte que en fait l'histoire en fait du mouvement en fait et de ses revendications n'était pas la même sur ces deux îles. Et quelque part cette liste de produits de première nécessité avait était, comment dirais-je, ça avait cristallisé plus, en tout cas, en fait, les actions, en fait, en Guadeloupe, puisqu'en Guadeloupe, comme ils étaient, en fait, ils s'étaient organisés vraiment longtemps à l'avance, cette histoire de liste de produits et de prix de produits a été réglée, il me semble, en une semaine. Enfin, je crois, enfin, moi, c'est ce qu'on avait dit, alors que, en Martinique, ça a été nettement plus long, parce que, ça a chopé sur des histoires de sémantique. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un produit? C'est-à-dire que dans le film, à un moment, en fait, j'ai un distributeur, en fait, qui nous parle des premières négociations, où qu'à un moment, ils se mettent d'accord sur, je crois, 100 produits. Les syndicalistes, le collectif, décrète qu'en fait, un produit, ce n'est pas juste une boîte de petits pois, mais puisque c'est l'exemple qui est donné, les petits pois extra fins, etc., etc. Donc du coup, en fait, ça multipliait par beaucoup, en fait, les références sur lesquelles étaient demandées la réduction.
Et Rodin, mais c'est aussi la question de la transformation des produits et du complexe économique à l'heure et dans ses relations, en particulier à géographique, à d'autres.
Cette question-là, la question des produits, c'est d'abord la question de leur acheminement, en fait. Puisque la hausse des prix et puis la cherté de la vie endémique au territoire en Guadeloupe et en Martinique, elle est justifiée d'un point de vue économique par le fait qu'on achemine.
Par le transport.
Alors après, se pose un certain nombre de questionnements politiques qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'on n'achemine pas les denrées de territoires qui sont relativement plus proches? Et il est très clair que le complexe économique et politique avec le fait que voilà, une partie de l'ancienne aristocratie et bourgeoisie économique blanche créole, les béquets, et détiennent le capital des structures de distribution, jouent aussi dans ce phénomène. C'est-à-dire que ils en retirent, eux, des bénéfices, l'État français en retire des bénéfices via les droits de douane successifs, et donc c'est ce qui explique la question de cette cherté de la vie. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, concrètement aujourd'hui, les Antillaises et les Antillais peuvent difficilement se passer de ces produits. Parce que il n'y a jamais eu d'agriculture vivrière d'ampleur et de projet d'autosuffisance alimentaire, et qu'aujourd'hui il est extrêmement compromis par le fait que les sols sont particulièrement pollués au chlordécone, les nappes phréatiques pareil. Donc on est vraiment sur des territoires qui ont besoin, un besoin dramatique d'importer ces produits, qui peuvent pas faire autrement que de les consommer dans les grandes surfaces.
Gilles Lydie-Cosac, alors vous aussi, vous êtes replongé dans l'histoire à d'autres moments, parce que je citais tout à l'heure le titre de votre film sur le football en Martinique, et plus précisément un événement historique qui est l'organisation d'un match pour mettre en valeur le football martiniquais. À l'époque, début des années 70, on a l'idée de faire venir le club dans lequel joue le roi Pelé.
Le Santos, oui.
C'est ça, donc oui, un an après la Coupe du Monde de 70, bon, on peut pas imaginer plus grande star.
Non, la moitié de l'équipe est constituée en fait de joueurs champions du monde
de 1970. Oui. Et donc cette équipe joue contre une sélection de meilleurs joueurs martiniquais. Et en fait le prix des billets explose littéralement, et un mouvement social se met.
Oui, en fait c'est l'illustration de ce que disait Pierre tout à l'heure en fait sur les actions que menaient en fait les différents mouvements d'extrême gauche. Et là en l'occurrence en fait c'était une action en fait de groupe d'action prolétarien où leur stratégie, donc c'est voilà, en fait c'est des jeunes en fait qui sont revenus en fait aux Antilles après avoir fait des études en métropole et avoir fait pour certains mai 68, et qui reviennent avec pour but aussi en fait de mener la révolution. Et leur idée, c'est de prendre en fait n'importe quel prétexte qui émeut la population pour essayer en fait d'en faire comme ça en fait des coups d'éclat. Et ils prennent effectivement en fait cet événement, parce que à l'époque en fait, pour assister à un match de football, ça coûtait 10 francs, et là le billet était passé à 100 francs. Alors pas du fait de la fédération de la ligue de football professionnel, c'est-à-dire que le Santos ne vient pas pour rien. En fait, ils viennent faire un cachet. Il faut payer le cachet. Et donc voilà. Alors je tiens à noter qu'à la base c'est quand même 5 personnes. Voilà, c'est juste pour mettre en perspective
on n'est pas dans le nombre des mouvements de profitation.
Absolument.
Qu'on verra.
Non, c'est juste 5 personnes en fait qui décident en tout cas en fait de mener cette action. Alors l'action à l'époque, c'est des graffitis. Voilà, c'est des graffitis essentiellement en fait sur la ville de Fort-de-France, mais donc est tagué sur les murs de Fort-de-France. Nous irons voir ce Pelé sans payer, puisqu'en fait leur but c'est d'obtenir en fait la gratuité. Et voilà, ben en fait de fil en aiguille, en fait ces graffitis entraînent en fait des manifestations de jeunes, et en plus il y a deux jeunes militants qui se font incarcérer parce qu'ils ont tagué des murs. Alors à savoir que leur idée était quand même, enfin quand ils se sont fait arrêter par la police, ils étaient en repérage, parce que leur idée était de en fait faire exploser en fait le mur du stade pour que les gens puissent rentrer comme ça gratuitement. Et voilà, donc le fait qu'il y ait eu cette arrestation a aussi en fait mobilisé plus les foules, et puis voilà, il y a eu des manifestations en fait plus conséquentes, et le gouvernement en fait français a pris peur. Et du coup, en fait, à organiser pour calmer un petit peu la population, la retransmission télé en direct du match. Donc voilà, c'est la première retransmission télé en direct en Outre-mer, et c'est dû à la base à voilà un petit groupe de 5 personnes. Et alors petit détail, c'est voilà retransmission en télé en direct pour une population qui est à l'époque, donc on parle de 71, le taux d'équipement télé est 10-13%, en fait quelque chose comme ça.
Voilà. On parlait du gouvernement. Je voudrais qu'on revienne pour terminer cette émission au point de départ, c'est-à-dire cette comparaison avec les Gilets jaunes. J'entendais tout à l'heure ce que vous disiez, Pierre Audin, c'est-à-dire que les revendications du mouvement 2008-2009, elles ont pour cible en quelque sorte le patronat. C'est avec lui, c'est à lui qu'on doit exiger de l'argent pour lutter contre la vie chère. Et ça, c'est une des grandes différences aussi avec ce mouvement des Gilets jaunes, duquel les entreprises ont été absentes. Enfin, ce que les Gilets jaunes ont décidé de cibler, c'est le gouvernement, les responsables politiques au premier chef.
Oui, après, il y a quand même la question chez les Gilets jaunes de la redistribution des richesses. Et assez rapidement, ce qui était un mécontentement contre l'impôt est devenu, s'est transformé, en tout cas pour une partie significative.
Oui, il y a eu d'autres revendications, bien entendu.
Une revendication de rétablir l'impôt pour les plus riches. Donc, on est quand même sur une idée aussi de redistribution des richesses dans les deux cas. Dans les revendications du LKP, il y avait aussi des revendications qui ciblaient les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques locaux et l'État. Notamment des questions sur l'encadrement du prix des loyers, le prix de l'électricité, le prix de l'eau.
Les services publics.
Les services publics, tout un tas de questions d'infrastructures aussi, puisque ce sont des problèmes chroniques récurrents hein, sur ces territoires, qu'avoir la polémique autour de l'hôpital à Pointe-à-Pitre, les réparations prennent un temps absolument fou. Enfin, en tout cas, il y a une perception de tous ces problèmes-là comme étant l'État a une responsabilité, et s'il y a une inégalité de traitement, alors derrière, pas loin, il y a forcément quelque chose d'un peu colonial. Il y a souvent cette perception-là du rôle de l'État. Et en même temps, quelque chose d'un peu contradictoire, puisque les responsables politiques continuent d'engranger des suffrages. Ils sont reconduits à leur mandat, je pense à Victorin Lurel en Guadeloupe, de façon sans aucun problème. Il y a aussi toujours une certaine forme de respect, voire d'admiration pour les responsables politiques.
Donc moins de défiance qu'en métropole.
Moins de défiance, c'est compliqué à dire. En tout cas, ça prend toujours des chemins qui sont un peu ambivalents. À savoir, est-ce que l'État peut nous venir en aide ou est-ce que l'État est un adversaire? Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles à trancher, y compris pour le mouvement indépendantiste qui est un adversaire déclaré de l'État français, mais qui doit quand même gérer un certain nombre de contradictions, les appréhensions vis-à-vis des aides sociales. Qu'est-ce qu'on va devenir avec toujours ce chiffon rouge qui est un peu agité? Mais si la France s'en va, ce sera Haïti, ce sera la Dominique, et donc ce sera la catastrophe. Et donc, toujours ces contradictions qui sont au cœur du hiatus de la politique indépendantiste. On affronte l'État, on demande à l'État, qu'est-ce qu'on prend à l'État? Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? C'est toujours des questions qui sont un peu en suspens et qui sont, je pense, pour les militants indépendantistes, toujours d'actualité et qui sont toujours pas refermées.
Gilles Eldy Kozak, vous avez regardé ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes en Guadeloupe, en Martinique. Est-ce qu'il y a eu des échos
À ma connaissance, et j'y étais un moment aussi à cette période, en fait, très peu, j'en étais un petit peu étonné. Après, en fait, les gens sont venus...
Il y a eu beaucoup de choses à La Réunion.
Oui, à La Réunion, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, qu'après 2009, en fait, les gens en fait, ont été un petit peu frileux parce qu'ils ont été un petit peu échaudés. Il y a aussi une forme de déception, en fait, sur les résultats en fait, qui ont été obtenus et qui ont été... Il y a eu des choses directement après, mais sur le long terme, il n'y a pas eu en fait de gros changements. En fait, il y a eu quelques petites choses cosmétiques. Si on reparle en fait de la liste des produits de première nécessité, c'est-à-dire que pendant à peu près un an après ce mouvement, dans les magasins, il y avait en fait des corners qu'on avait appelé prix produits baissés bas, où en fait on trouvait les produits qui étaient sur cette liste qui avait été négociée avec les syndicalistes.
Merci beaucoup, Gilles-Élie Dikozak. La liste des courses, nous irons voir Pelé sans payer. On trouvera des liens vers des informations sur ces films, peut-être la possibilité de les voir sur des plateformes de VOD. Oui. Et puis on trouvera la référence du livre dont nous parlions aujourd'hui, Profitation de Pierre Audin à la découverte. Tout ça sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez télécharger le podcast, vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Chouchan Djergaillan. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, Massimo Bellini. Et c'est Christine Bernard qu'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.